Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Benjamin Troncin. En littérature, je suis pour le grand contre le petit, et en politique, je suis pour les petits contre les grands, écrit Victor Hugo dans l'un de ses textes politiques, nous donnant ainsi la matière de la gourmandise du jour à laquelle notre invité acquiesce. Né à Paris, notre apothicaire de l'âme est emmené par sa mère dans l'Ohio à l'âge de 3 ans. Il y côtoie des musiciens de jazz et doit les...
Plus tard.
D'accord. Alors plus tard.
Si, c'est 39, oui, je suis bête.
Non, vous n'êtes absolument pas bête. On n'a qu'à rester là, on reste sur le générique pendant une heure, on ne fait pas d'émission. Ça vous va ou pas ?
Ah oui, génial.
Oui. Non, alors bon, non, vous écoutez leur musique sans bouger, ce qui façonne des rapports tendus avec le jazz. Bon, on en rediscutera. À 7 ans, retour en France, accueilli par les parents de celle qu'il cessera d'appeler maman 3 ans plus tard et qu'il qualifiera d'ennemi intime. Ouais. Le salut se fera par cette nouvelle famille et par la musique. À 10 ans, il s'imagine en petit Beethoven, sinon rien. Il s'initie au piano, achète le traité d'harmonie d'un ancien disciple de Gabriel Fauré, auquel il ne comprend rien, et prend contact avec son auteur, Yves Marga, pour devenir musicien classique. Ce dernier lui enseignera tout, la musique et les matières scolaires. L'élève bifurque finalement vers le rock, prend un nom célébrant les écrivains Shelley et Schiller, compose des chefs-d'œuvre, messes, comédies musicales, musique de films, symphonies, quatuors et sublimes chansons. Surdoué, extrasensible, il arrange et compose également pour d'autres, essaie de s'anesthésier un temps et fréquente la bile noire. Cela fait des années que je souhaite l'inviter sans oser. L'apparition de son autobiographie en mars dernier, accompagnée de l'annonce de la fin de sa carrière musicale, m'enlève toute retenue. William Scheller, bonjour.
Eh ben, quelle brièveté. Oui, bonjour.
William Scheller, dans des interviews, on vous demande souvent si vous êtes heureux, vous dites non. Et j'ai juste pris une phrase, vous êtes heureux de vivre ? Non, je ne l'ai jamais été. Quel est votre rapport à la mélancolie ?
Oh, je m'en sers pour plonger dedans, parce que quand on se fait du mal, on en ressort avec un malaise de grande richesse.
Un malaise de grande richesse. Qu'est-ce que ça veut dire, un malaise ?
Ça veut dire qu'à travers ça, on a eu des sensations. On a vu des gens, on est allé dans des endroits, voilà. Et puis alors, à partir de là, ça donne des mots, ça donne des ambiances, ça donne de la musique, ça donne des choses comme ça. C'est extrêmement... c'est vieux comme système, hein. C'est Alfred de Vigny, c'est Baudelaire, enfin, c'est des gens qui allaient traîner, des gens, hein, et on en ressort avec des choses riches.
Quand on arrive à en faire quelque chose, mais vous, William Scheller, vous dites que vous avez été malheureux absolument partout, sauf en musique.
Mais oh, j'ai pas eu de bol. Sauf en musique, ouais. Heureusement que j'avais la musique comme passion, quoi. Je m'y accrochais beaucoup. Déjà étant gamin, bah, comme je le dis, j'étais tombé sur un livre du philosophe Cioran.
Mais on va en parler.
Voilà. Ouais. Mais ça m'a permis quand même de traverser la vie d'une façon... Je vais pas dire sereine, mais enfin tout au moins avec un petit recul, quoi.
Pourquoi ? Parce que Cioran, en fait, il dit que, bon, de toute façon, il est toujours trop tard pour se suicider, hein.
Non, oh là là, oui, mais faut pas le texte, voilà. Ce qu'il dit, moi j'aimais bien ce traité sur de l'inconvénient d'être né.
Le plus beau titre de l'histoire de
la littérature. Évidemment, c'est très beau. Et c'est vrai que c'est plein d'inconvénients.
Ah oui.
Il faut le savoir, puis une fois qu'on le sait. Ah bah,
là, une fois qu'on le sait, on souffre, on pleure, on gémit.
Bah non, oui, mais enfin, oui, mais c'est l'inconvénient de la vie, ça.
Oui, quoi. Mais on fait pas tous des chefs-d'œuvre comme vous, William Scheller.
Non, je fais pas des chefs-d'œuvre.
Mais si.
C'est-à-dire qu'on tâche de remplir un peu ce qu'il y a. Alors, c'est chouette quand on a une passion. Mais ça m'empêche pas de penser à ceux qui ne l'ont pas, qui sont un peu bousculés par la vie sans avoir autre chose que tâcher de trouver un patron, puis pouvoir croûter. Ça me fait plus de peine que ce qui m'arrive à moi. Voilà.
William Scheller, il y a une chanson qui vous a marqué, offert. Vous n'en pouvez plus d'ailleurs quand les journalistes décident de la passer. Je ne vais pas la passer,
mais
c'est un homme heureux. Hein, et on vous a dit, quand vous l'avez écrite, ça ne marchera pas, c'est trop triste.
Ah, c'est... Oui, absolument. Absolument. Parce que ça faisait quand même déjà, bon, une vingtaine de concerts que je la jouais. Et puis à chaque fois, c'était demandé en bis. On m'a demandé de la chanter une deuxième fois.
C'est un chef-d'œuvre, malgré vous.
J'ai mis 2 ans avant de trouver le texte. 2 ans. Je savais que la musique était bien. Mais faut pas louper les mots, faut pas louper. Donc, y a beaucoup de choses qui ont été loupées des fois dans les chansons, à cause des textes qui sont gnangnans. Enfin, je voulais trouver quelque chose qui correspond à ça, voilà. Et alors, y a des gens de la maison de disque qui accourent, évidemment, quand il fait beau, ils viennent toujours, et qui... Ah, ça marchera jamais ce truc-là, c'est trop triste. Mais c'est pas triste du tout.
Si, alors si.
Oui, c'est un air d'espoir. Et moi qui te connais à peine. Voilà. Moi, je voudrais qu'on soit comme eux. Je voudrais qu'on soit comme les gens qui s'aiment. J'aimerais. C'est un souhait. C'est un vœu. C'est une envie. C'est pas du tout. Ils se séparent pas, ces gens-là. Ils sont pas malheureux. Alors déjà, c'est pas une chanson triste. Et puis ensuite, un gars tout seul au piano. Ça passera jamais en radio. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ah ben oui, mais enfin, ça finit, disque de platine. Alors, ils sont... Ça leur a ouvert les oreilles sur d'autres qui composaient au piano. Parce que, d'abord, le rapport qualité-prix, c'est formidable. Un seul gars au piano...
C'est mieux qu'un orchestre.
Tiens donc, c'est moins cher. Donc, toutes ces choses ont considéré... Ils ont considéré tout ça, puis... Voilà. Et ça a démarré. Mais un peu trop fort pour moi.
Ah.
Bah oui, c'est l'arbre qui cache la forêt.
Bon, on va quand même passer en revue vos remèdes à la mélancolie, William Scheller, même si vous ne la fuyez pas, même si elle est votre matériau.
Je ne m'en souviens plus. De...
Moi, je me souviens. Je me souviens parce que j'ai 21 pages de questions minutieuses qui vous attendent. C'est une menace que je vais mettre à exécution. Puisqu'on va convoquer sur rang, évidemment, Marcel Carné, du Spleen, le manque de finalité, Yvette Guilbert, Henri Salvador, Edward Hopper et quelques chiens joueurs. Ouais. Restez avec nous, chers auditeurs, de notre côté. De toute façon, nous restons avec vous dans tous les cas, même si vous partez. William Scheller, j'ai essayé de prendre une chanson originale, mais en fait, non, je n'ai pas résisté. Il y en a une que j'adore absolument. Est-ce que vous me permettez de passer? Je ne me gênerai pas pour dire que je t'aime encore.
De toute façon, même si je ne voulais pas, vous la passerez quand même.
Non, je vous aurais écouté. Je vous aurais écouté. L'invité est roi.
Thank you. je t'aime encore. Et même si l'amour t'emporte au dehors, je me gênerai pas pour dire que je t'aime encore.
Version piano seule de Je me gênerai pas pour dire que je t'aime encore de vous, William Scheller, puisque vous la préférez à la version avec orchestre.
Oui, au fidèle, oui.
Vous écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter, nous sommes avec William Scheller.
Où allons-nous ?
C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
Mais c'est peut-être le même.
Non.
Oh, pourquoi ?
Parce que j'ai rendez-vous.
Au rendez-vous ? Destin tragique. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, et me quitter pour quoi ? Pour qui ? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet autre ?
Oh, moi, j'aime tout le monde.
Eh bien, voilà qui tombe à merveille, je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux.
Est-ce que vous en savez ?
Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais n'en parlons plus. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire.
Vraiment ?
Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre ?
On m'appelle Garance.
Garance, oh, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors ?
Alors, au revoir, Frédéric.
Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laissez tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard.
Oh, Paris est grand, vous savez.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
1945, Les Enfants du Paradis, Marcel Carnet, d'après le scénario de Jacques Prévert. William Scheller, vous avez choisi une scène d'anthologie avec Arletty et Pierre Brasseur.
Oui. Bah oui, bah j'adore Arletty. Je ne voulais pas l'Hôtel du Nord. C'est trop galvaudé.
C'est triste.
Oui, triste, oui, parce que bon, atmosphère. Bon, voilà, d'accord. Mais là, il y a. C'est... Oh là là, Taxan Titi, ce côté, c'était le personnage, et puis ce film aussi, c'est une merveille, quoi. Faut voir. Réalisé dans une condition incroyable, quoi. Enfin, en pleine guerre, après la pleine guerre, enfin bon, c'était. Je l'ai rencontré, Arletty. J'ai rencontré, oh la pauvre, elle ne me voyait pas, mais à peine. C'était un dîner dans un restaurant qui s'appelait Garance, d'ailleurs, qui était dans les Verliales, là. Et on l'a dîné à plusieurs, donc. Mais quelle femme merveilleuse.
À quel personnage du film vous identifiez-vous le plus, William Scheller ? Parce que, à mon avis, mais peut-être que je me trompe, c'est Pierre-François Lassner, dit le dandy du crime, le comploteur misanthrope.
Voilà.
C'est vous ?
Oui, mais je ne dirais pas l'échafaud.
Non,
bah,
non.
Déjà ça. Non, mais j'aime bien ce personnage. Oui, enfin bon...
Mais il a inspiré Dostoïevski.
Oui, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Tiens, j'avais pas fait le rapport.
Pour Crime et Châtiment.
Mais oui.
Mais vous, ça va bien se terminer.
Oh oui.
C'est un film aussi sur la scène, William Scheller. Quand vous avez été recueilli par vos grands-parents qui travaillaient dans les théâtres, vous avez eu accès à la scène. C'est important pour vous. Et puis, Yves Marga, votre maître, vous avez dit, mais vous ne pouvez pas gagner votre vie comme un saltimbanque quand vous avez décidé d'arrêter le classique pour le rock.
Oui. Ah ben lui voulait me faire passer le prix de Rome. Parce que lui, quand Gabriel Fauré le poussait au prix de Rome, au moment d'y entrer, eh ben oui, mais la guerre de 14 s'est déclenchée. Donc il avait l'âge de porter l'uniforme et puis ça a été fichu. Alors après, il a tâché de transmettre au moins ce qu'il avait à dire, ce qu'il avait reçu. Parce que Fauré, il avait été l'élève de Saint-Saëns, il avait été l'élève de Franz Liszt, et puis comme ça on remonte, je sais pas où. Donc, moi je suis arrivé, gamin à 15 ans, j'ai sonné à la porte. Moi je veux pas apprendre le piano, moi je veux être compositeur. Ah, ses yeux, ben, boum, se sont ouverts comme ça. Ah, en voilà un qui veut être compositeur, parce qu'en général c'était pour du piano, quoi. Et puis j'étais trop jeune. J'avais 15 ans, je ne pouvais pas quitter les études. Et j'étais interne, donc il n'était pas question de... Oh, il y a une solution, c'est que je devienne précepteur. Donc il en a profité pour m'apprendre le français, mais la littérature et la littérature de son temps. C'est-à-dire que j'ai découvert Charles Cros, que j'ai découvert André Gide, que déjà, comme ça, hop. Et puis, il m'a appris le latin. Il ne comprenait pas qu'un étudiant n'apprenne pas le latin. Enfin, pour lui, c'était invraisemblable. Lui, qui lisait le grec, livre ouvert, il me traduisait des pièces de Sophocle, comme ça, pouf. Ah, je me disais, oulala, quel bonhomme. et je suis resté assez longtemps avec lui. Puis d'un seul coup, et ben, je ne sais plus son nom, le ministre de la Culture de Gaulle, là.
Malraux,
voilà. Ah, Jean Moulin.
Bien sûr.
Voilà, c'est ça. Et ben, il a arrêté le prud'homme. Donc il n'y avait plus que ça. Et puis mon piano casse. Et j'ai une copine, Nikki. Elle met mon piano claque, mais vraiment, bang, trop de sécheresse, le tas d'harmonie. Oh là là, pour 6 mois de boulot. Bon. Elle me dit, viens jouer à la maison, si tu veux. J'hésitais un peu parce qu'ils avaient un coquer,
qui mordait les mollets.
Quand on jouait du piano.
Vous le racontez dans William, William Scheller. Oui.
Et à partir de là, elle m'a attendu. Elle m'a dit, je connais les Beatles. Un peu, oui, j'en ai entendu parler. Mais j'avais entendu leur musique à travers Claude François, c'était pas vraiment le summum. Alors donc, elle m'a donné 2 albums, Heart and Night and Help. Et j'ai écouté ça avec l'oreille de musicien, l'oreille que j'avais éduquée. C'est-à-dire que je voyais les contrepoints, je voyais les machins, je voyais les trucs. Je me suis dit, ça, c'est bien intéressant. Ça devient intéressant. Et effectivement, au fur et à mesure des albums, eh ben, ça devenait de plus en plus intéressant. Je me suis dit, c'est là qu'est la musique de l'avenir. En fait, du moins, je le croyais.
Vous avez eu du nez ?
Oui, pour un temps.
Encore un jour tout seul, où tout fout le camp. Tu vois, j'ai jamais su comment parler aux gens. Je suis mal dans ma peau, j'ai un peu froid dans le dos. Lentement, doucement, je coule comme un bateau. Je suis un mauvais capitaine, je suis qu'un mec qui traîne, auquel on tourne le dos. Mais si t'avais le temps, m'écouter davantage. Et si j'avais les mots qu'il faut pour accrocher les images, je te dirais simplement, en te regardant.
Simplement d'un certain William Scheller, pour introduire votre refus d'une idée consolatoire. William Scheller, vous dites que vous n'en avez pas, que le spleen est une source d'inspiration précieuse. Est-ce que vous allez jusqu'à le provoquer ?
Mm-hmm.
C'est vrai ?
Mm-hmm.
Est-ce que vous vous complaisez dedans ?
Oh non ! Oh, c'est le moment ! Ça dépend ce qu'on avale. Mais...
Une choucroute ?
Oh non !
Oh non ! Oh non, je ne mange pas de ce pain-là !
Non, non, ou alors elle vient d'un pays lointain. Écoutez. Non, non, mais il arrive que disons, on aille se promener à travers le monde, enfin à travers le monde, ou pas si loin, à travers des univers, des gens, des choses comme ça, des univers où on se fait un petit peu de mal intérieur, comme je dis, pour voir les autres, pour entendre, j'ai écrit avec mes oreilles, mes yeux, je vais encore citer Baudelaire, etc. On en tire des richesses de ces choses-là.
William Scheller, est-ce que vous vous considérez comme un romantique ? Le romantique s'abîme forcément.
Bah oui. Nerval s'est pendu. C'est des choses comme ça. Oui. Oui. Mais eux, ils étaient plongés dedans, ils n'en sortaient plus. Tandis que après, quand il faut écrire, qu'il faut blablabla, surtout à notre époque où il faut cavaler de promo en promo, enfin des trucs à faire d'eau.
Épouvantable.
Ah non, épouvantable. Oui. C'est. Je parle pas que le fait de parler de soi ou de parler de ce que l'on vient de faire est difficile, mais enfin, c'était un petit peu stéréotypé, quoi. Et puis ça, puis les concerts, toujours les mêmes. Enfin, tout ça, c'est. Ça fait ressortir de tout cela. On est obligé. On est obligé, puis on ne vit pas seul. Ces gens-là vivaient seuls. Et où ils avaient des malheurs dans leur vie.
Il y a des substances.
Aussi. Dit-il ingénument. Oui.
Non, mais vous avez un peu frôlé les abîmes, William Scheller,
pas,
vous le dites
frôlé.
Dans l'autobiographie.
J'ai pas frôlé. Ah,
mais vous avez tout arrêté.
Ah non, mais ça n'a rien à voir. On se fait des fausses idées là-dessus. D'abord, les années de 70 à 80 et quelques, 85, tout le monde, Ça circulait partout.
Ah non, mais je ne parle pas que de ça. Et vous avez raison de dire qu'on se fait des fausses idées sur ça, William Scheller, puisque justement, quand on lit votre autobiographie, William, à aucun moment il n'est question d'addiction.
Ah non.
Consommation, oui, comme à peu près tout le monde autour de vous à ces époques-là, mais pas d'addiction ni avec l'alcool, ni avec la cocaïne.
Non.
Non, mais c'est assez fort, ça.
Ben, c'est pas assez fort, c'est comme ça. Je voyais pas pourquoi je me ferais une ligne de cocaïne pour regarder la télévision.
Non, mais la première fois que vous en avez pris, c'était un concert, vous vous sentiez pas très bien, et un type vous a dit,
j'étais fatigué.
Prends un remontant.
J'étais fatigué, et c'était un remontant, effectivement. C'était un remontant, je suis crevé, mais alors, à cette époque-là, c'était un petit centimètre.
Mais quand on connaît les paradis artificiels, est-ce que c'est pas terrible, après, de vivre sans? Parce qu'on a frôlé l'absolu, ça, c'est médiocre.
Ah non, pas du tout. Non, mais il y avait une philosophie. Alors, la philosophie des années 60 et des années hippies, c'était plus une philosophie mystique qu'un côté festif. Si on pouvait voir Dieu, des trucs.
Vous l'avez vu?
Non, j'ai vu d'autres choses, mais tout aussi effrayantes. Oui, il y avait une recherche comme ça, et c'était. Vous savez, ça a commencé très tôt. On parle des romantiques. Les romantiques, il y avait déjà ce besoin de contrarier les parents qui étaient extrêmement classiques. D'une génération à l'autre, on contrarie les parents, ça c'est sûr. Mais ça correspondait aussi aux conquêtes d'Algérie. Et les soldats sont revenus de l'Algérie, de l'Égypte, de tout cela, avec des substances qui alors étaient étudiées, mais c'était étudié exactement comme 100 ans après, il y a eu des études sur le LSD. Alors donc, on le prenait en gâteau, voilà. Et puis, donc, il y avait Berlioz, Flaubert, enfin, tous ces gens-là, qui se prêtaient aux expériences.
Ah, mais tous, tant d'artistes.
Voilà, tous les artistes un peu, voilà. Pour Victor Hugo.
Beaucoup, non. Mais ils faisaient tourner des tables, Victor Hugo.
Oui, c'est encore, oui.
Donc, on a tous essayé de frôler, enfin, je dis on comme si j'étais dans le club des artistes, pas du tout, je veux dire, les êtres humains qui créaient. Tous essayaient de frôler l'absolu.
Tous essayaient de frôler le noir. Ça revenait au Moyen-Âge. Quand on voit l'appartement de Victor Hugo, place des Vosges, j'aurais pas vécu là-dedans. C'est une tristesse, les meubles, tout ça. C'est effrayant. C'était un genre. Donc, c'est un peu la même chose.
William Scheller, en parlant de tristesse, la citation que vous avez choisie pour l'émission peut avoir plusieurs effets sur l'humeur, mais je ne sais pas vraiment lesquels. Le malheur de l'homme est de croire qu'il est sur la terre pour y faire quelque chose.
Je ne sais plus qui a dit ça.
Mais je n'ai pas retrouvé.
Moi non plus.
Vous pensez qu'il n'y a aucune raison d'être là?
Ben non.
On n'a rien à faire.
C'est amusant de se poser la question.
Pas très amusant, non?
Aussi.
Non.
Ben, l'homme croit. Est-ce que les animaux pensent une seconde? Est-ce qu'ils ont à y faire?
Non, mais les animaux sont des sages par rapport à nous.
Exactement. Exactement.
Nous, on a l'ego.
Ah, la vilaine bête. Oui.
Vous ne pensez pas, William Scheller, que votre œuvre compte? Je veux dire, c'est un moteur de se dire qu'on a quelque chose à faire si on se dit qu'on n'a rien à faire.
Ah non, mais ça, on se dit pas j'ai quelque chose à faire, on est poussé par le quelque chose en question. C'est un peu différent. On subit. On subit une passion. Hein. La passion, ça subit. Parce que sinon, on s'en débarrasserait très vite, quelle qu'elle soit. Alors donc, quand on est poussé par la musique, et on l'entend, et puis voilà, et puis il faut l'écrire, ce qui est grave, c'est ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à faire, et puis à régler tout ce qui se passe dans le monde, et puis blablabla. Ça, c'est dangereux. Même.
Se prendre au sérieux.
Oh oui, c'est dangereux. Non, on peut laisser quelque... Je laisserai peut-être un homme heureux dans un coin, comme Damia a laissé, je sais plus quoi, la Coco, tiens, par exemple. Vous ne tuez pas les Gaulois. Bon, Ferré a laissé avec le temps. Bon.
Et d'autres choses.
Quoi. Et d'autres choses, mais enfin, je veux dire, on est toujours fixé par un titre. Donc ça restera pendant peut-être quelques années, mais il y a eu des chansons extrêmement célèbres au 19e siècle, on n'entend plus parler du tout. Well, you flew to New Orleans to rent a car. To see your friend, to put him in the hospital again. In the back
second floor, right across from the radio bar. No food in the fridge, I guess things had gone too far. Well, all things come and all things pass. Takes a lot of medicine to go this fast.
Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast.
Well, all things come and all things pass.
Takes a lot of medicine to go this fast.
Did man invent his illnesses? Were fundamentally unstable. Mother Mary's shrine hiding under the table. In your blue silk robe, burning cigarettes, dreaming of your soul on a Baton Rouge day. Where you going and what's on spec? Takes a lot of medicine to go this fast.
Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast.
Oh, all things come and all things pass, but
takes a lot of medicine to go this fast.
Vous appréciez William Scheller, Nick Waterhouse, Medicine, et vous écoutez Remède à la Mélancolie. Vous êtes dans Remède à la Mélancolie. Les auditeurs écoutent Remède à la Mélancolie sur France Inter.
Ce qui m'a sauvé, c'est l'idée de suicide. Et sans l'idée de suicide, je me suis sûrement tué. Mais ce qui m'a permis de vivre, c'est que j'avais ce recours toujours en vue. Et vraiment, sans cette idée, je n'aurais pas pu supporter ma vie. L'impression d'être coincé ici, bas, mais je ne sais pas quoi. C'est toujours, pour moi, l'idée de suicide, toujours liée à l'idée de liberté. Avec cette idée, je me suis dit, je peux supporter n'importe quoi, puisque tout dépend de moi. Et je dois dire que, contrairement à ce qu'on pense, l'idée de suicide est une idée positive. C'est une idée stimulante. Ce n'est pas une fuite du tout, c'est l'idée, je parle de l'idée, mais c'est l'obsession du suicide, je ne parle pas du suicide, c'est la pensée du suicide.
C'est un peu le parrain de l'émission, le philosophe roumain Cioran sur la RTBF, interviewé par Christian Bussy en 1973. William Scheller, on a le même livre de chevet, c'est le meilleur titre du monde, de l'inconvénient d'être né de Cioran, recueil de 884 fragments publiés en 1973. Vous dites dans votre autobiographie, William, que c'est le résumé de votre vie, ce titre, tout simplement, alors que lui, Cioran, l'avait soumis à son éditeur comme un ramassis de boutades et de cris pétrifié. Il y a une lucidité.
Oh, il y a des boutades, oui.
Oh, c'est très drôle.
Ah, c'est très drôle.
C'est très très drôle. Mais alors, Cioran faisait l'éloge du suicide. Il l'a fait toute sa vie dans tous ses ouvrages. Il ne s'est pas suicidé. Il est mort âgé d'Alzheimer. Et il aurait dit à Clément Rosset, un autre philosophe, qu'en fait, il était très inélégant de se suicider. Vous, William Scheller, est-ce que la pensée du suicide vous a déjà effleuré?
Jamais.
Jamais.
Jamais, 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 parce qu'il y a des gens qui dépendaient de moi. que ce soit mon épouse, l'époque, que ce soit mes enfants, que ce soit mes petits-enfants, que ce soit bon, les personnes qui ont croisé ma vie. Non, non, non. Il y a des gens qui dépendent de vous, donc on peut pas être. Ou alors, faut être vraiment solitaire ou d'un grand égoïsme. C'est pas possible. Pas possible. Non, 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 jamais pensé à ça. Jamais.
William Scheller, en dehors de la musique, vous n'avez eu aucun moment de joie dans votre vie personnelle?
Oh, si. Si, mais le moment de joie, c'est bref.
Toujours.
Bah, évidemment.
Toujours bref.
Bah, évidemment. On me dit, est-ce que vous avez été un homme heureux? Bah, non. Bah, un homme heureux, l'imbécile est heureux. c'est bien connu. Faut vraiment se rendre compte de rien. Ou alors être l'humeur. Enfin, dans le stade où on ne s'aperçoit plus des choses.
Alors, Cioran, bon, c'est l'humour noir, c'est le désespoir, mais...
Je peux vous en citer une?
Ah oui, avec plaisir.
L'amour, cet échange de salive qui trouve son absolu dans la misère des glandes.
C'est
pas vrai. Ben, c'est ça.
Mais alors, j'ai lu dans une interview William Scheller, parce que vous avez choisi un film triste, Les Enfants du Paradis, vous avez choisi De l'Inconvénient d'être né, mais j'ai aussi lu que vous adoriez Priscilla, Folle du désert, et un autre livre de chevet, Tableau de Paris, une chronique de la Société française de l'Ancien Régime, écrite par Louis-Sébastien Mercier, un journaliste du XVIIIe siècle.
Exact.
Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Ben oui, c'était un chroniqueur. Apparemment, ces petites chroniques paraissaient, je ne sais pas, peut-être le Mercure de France, je ne sais pas quel. Et il a traversé la Révolution. Et il y a deux tomes, ça a été édité pour le bicentenaire de la Révolution française. Je suis tombé dessus. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on apprend beaucoup de détails sur la vie des Parisiens au XVIIIe siècle. Quoi. Ils étaient contents parce que le roi fait mettre des lanternes accrochées à des ficelles, enfin des trucs d'immeuble à immeuble. Il y avait en V, quoi. Comme ça évitait trop de se faire égorger. Enfin, des trucs.
Ah oui.
Ah oui, non, non, oui, c'était. Et il disait que chaque rue était un danger, quoi. C'est pour ça qu'il y avait... Des fois, on voit encore des murs dans le marais, des murs avec une grosse boule de pierre, comme ça. Bah, c'est pour éviter qu'on se cogne qu'on puisse au moins grimper sur la pierre s'il venait à passer une voiture, un carrosse ou quelque chose. Alors, on apprend que... Par exemple, on dit dans le Parti populaire, on va chez le coiffeur, on va chez le Merlan. Bah oui, mais à l'époque, les coiffeurs faisaient des perruques, ils les poudraient en blanc. Et alors, ils les portaient chez les bourgeois, mais le fait d'avancer dans le vent comme ça, ils se retrouvaient plein de poudre. Donc, ils étaient tout blancs, quoi, on les appelait les merlans.
Il y avait un homme et Boudin, il y avait un homme et Bouton, la pourvue d'une madame Bouton. Et l'autre d'une Madame Boudin, au Sacré-Cœur Madame Bouton, avait connu Madame Boudin, à Condorcet Monsieur Boudin, avait connu Monsieur Bouton. Tous les dimanches, les Boudins offraient le spectacle aux Boutons, mais en revanche, les Boutons payaient à souper aux Boudins. On ne voyait pas les Boutons, sans voir aussitôt les Boudins, quand on invitait les Boudins. Les Boutons.
1937, partie carrée chez les Boudins et les Boutons de Marcel de Lius, interprété par Yvette Guilbert, qui remportait également les suffrages de Freud, Proust et Toulouse-Lautrec.
Ben oui.
William Scheller.
Demandez à Marie-Paul Bell, elle a un répertoire de chansons coquines dans le même genre, qui est hallucinant, hallucinant. Ben j'adore ça. C'est petit sous-entendu, mais c'était toujours. Hop. On ne disait pas les choses.
Mine de rien.
Mais, oui, mine de rien. Il y a des chansons, le trou de Monquet. Parce que, à ce moment-là, il creusait le métro. Mais ça donnait, évidemment, enfin, c'est amusant. Moi qui écris des textes, je suis assez admiratif de la façon de biaiser les choses, comme ça. C'était sympathique. Il y en a une qui a biaisé il n'y a pas longtemps. C'est Jeanne Chéral. Oui.
Qui a chanté avec vous, d'ailleurs.
Oui, elle a chanté avec moi. Oui, oui, oui. Alors, je chante divinement bien. Puis c'est un auteur. Et, il y avait une chanson chantée à l'époque par Colette Renard qui s'appelait « Les soirées d'une jeune fille ».
Bien sûr.
Bien sûr. Et alors, elle a chanté ça sur le même air, mais uniquement avec ses problèmes d'ordinateur. Donc, je me fais tweeter, rien n'est dit.
Oui, rien n'est dit.
C'est amusant, parce que...
Et c'est très évocateur.
Bah tiens donc.
Vous avez choisi un autre antidote musical, William Scheller, un morceau de 58, Faut rigoler, écrit par Boris Vian et composé par Henri Salvador, qui l'interprète, on va l'écouter, hein, en 1960. Ils ont écrit plus de 400 titres ensemble.
Oh, Zorro et tout, oh là là. Oui.
Et alors, un journaliste qui vous demandait ce que vous aimeriez changer dans votre apparence, William Scheller, vous avez répondu, je me ferais un peu plus souriant.
Oui, c'est vrai. Ben... Moi, j'ai l'impression de sourire jusqu'aux oreilles, et puis on me dit, tu pourrais un petit peu, voilà, tu pourrais pas sourire un peu. Les photographes me disent, tu vois, l'air un peu moins triste, là. Ben, moi, j'ai l'impression de sourire, mais trillard, mais pas du tout, pardon.
Bon, bah, faut rigoler.
Ah, faut rigoler.
Henri Salvador.
Mais oui.
Faut rigoler. Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là. Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes en bois, et les druides, trois par trois, sous le gui chantaient à pleine voix. Nos ancêtres, les Gaulois, prirent la pile à Alésia. Les barbares étaient là, mais tant pis pour eux, dire les Gaulois. Les Gaulois inventèrent le tabac, et c'est grâce à ce truc-là qu'ils se fendaient la pipe à tout de bois. Nos ancêtres, les Gaulois, eurent le tort d'être grand-papa. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on a fait le tcha-tcha gaulois.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec William Scheller. Spleen, beauté et solitude, tous très présents dans l'œuvre du peintre que vous avez choisi pour l'émission, puisqu'il s'agit de l'américain Edward Hopper, où on voit beaucoup de personnages esselés et mélancoliques, William Scheller.
Et puis des fois, on ne voit pas de personnages.
Bah oui, bah ils ont disparu.
Ah bah non, où ils vont arriver?
Non, ils sont partis.
Ah, je sais pas. Ça dépend, c'est le demi-verre plein.
Ils ont lu sur rang, ils sont partis. Ils ont quitté la scène.
Ah, mais j'adore ça. Pas trop celui qu'on voit trop, là, les mondes minuit, là, les Nighthawks. Mais des fois, c'est simplement une chaise, une porte ouverte sur... On ne sait pas quoi. Il y a du soleil qui rentre, c'est pas... Ça n'est pas triste, c'est...
Serein.
Voilà, c'est serein, puis la personne est partie. Ah, moi, c'est comme ça que je la vois. Elle est partie prendre l'air, elle a abandonné le truc. Ah, il y a beaucoup de choses que j'aime bien chez lui.
J'ai lu que vous aimiez aussi Arnold Böcklin.
Ah oui, à l'île des morts.
Bien sûr, l'île des morts. Et son autoportrait avec un squelette derrière lui qui joue du violon.
Ah oui, c'est ça, autre chose. L'île des morts, il y a quelques fous, dont Hitler et moi, oui. qui adoraient cette peinture. Enfin, il y a pas mal de gens qui étaient vraiment... Et j'ai, moi, un Philippe Drouillet, grand illustrateur, qui m'en a offert une litho, où il est parti de l'île des morts, il en a fait un truc qui fait 1m50 de haut, et c'est effrayant.
Ah, et vous l'avez, vous le contemplez, vous êtes effrayé, William
Scherer. Ah non, je m'y suis habitué. Mais,
mais j'ai pas pu m'empêcher,
à l'autre bout du salon, d'avoir, non pas l'original, mais d'avoir une reproduction du Böcklin en question, quoi.
Inconnu, chien perdu, tu rêves, tu sommeilles, peut-être voudrais-tu que je te gratte là, derrière les oreilles, doux chien couché sur le trottoir, qui lève vers mon œil ton regard blanc et noir. Voici les questions posées dans Le chien perdu de Francis Poulenc, interprété ici par la maîtrise de Radio France, œuvre que nous avons choisie pour introduire l'activité qui vous grise, William Scheller, puisqu'il y en a une à part la musique, c'est jouer avec les chiens des voisins qui entrent dans votre jardin. Je veux tout savoir d'eux, leur nom.
Oh, je sais pas tous les noms.
Leur apparence.
Alors il y a
leur métier.
Golden Retriever.
Ah.
Un beau gros là, du coup, qui je sais pas, qui sautille dans tous les sens, qui vient jouer, qui vient courir, c'est ça. J'en ai un autre, un cocker noir.
Oui.
Qui s'infiltre dans le garage. Vous voyez, il s'infiltre dans le garage parce qu'il sait que par là, il y a toujours le pain trop dur qu'on a mis là. Enfin, hop, il ressort avec une demi-baguette. Toute dure. Puis il ne faut pas lui prendre. Et c'est un chien, on le laisse faire. Maintenant, il s'habitue un peu à moi, il s'habitue à la maison. Mais c'est un chien qui a été maltraité tant petit et qui ne supporte pas les hommes. Les femmes, oui.
Ah.
Donc je sais pas qui
un chien de goût.
Oui. Peut-être. Et alors à force de venir et puis de sentir l'odeur de gens qui l'ont pas battu, il vient. Il y a
pas mal de chiens, dis donc, William Scheller.
Oui, il y a des chevreuils aussi qui viennent.
Ah oui.
Oui, des chats. Il y a le chat gris.
Des chevreuils.
Oui, des chevreuils, oui. Des biches. Puis des jeunes, des tout jeunes chevreuils, les bois qui sont tout petits, c'est l'époque. Hein. J'ai des drôles d'oiseaux. J'ai appris que ça s'appelait des loriots. Alors ils viennent sur le bord de la fenêtre parce qu'il y a toujours des graines de tournesol qui sont là. Et pour les trois familles d'écureuils qui vivent dans la maison. Enfin, et puis des oiseaux dans tous les sens, on fait ça.
Ah oui, ça fait du monde.
Ça fait du monde, oui. Mais j'aime bien.
William Scheller, vous adorez les chiens, il en est beaucoup question dans votre autobiographie intitulée William. C'est un peu un stéréotype de misanthrope, ça, vous qui vous dites misanthrope, d'aimer les chiens.
Ils font de mal à personne, ils sont toujours victimes.
Ah oui, non, mais ce sont des chic types, moi j'adore les chiens.
Non, mais bien sûr, ils sont toujours victimes. J'aime bien les gens qui aiment bien les chiens. Ah oui, si on n'aime pas les chiens, si on n'aime pas... Oui, on aime différentes races de chiens. Moi, j'aime pas les chiens qui aboient sans arrêt. C'est pour ça que j'avais choisi ma chienne, Jeannette, Scotch Terrier, noire. Et on ne l'entendait jamais. À tel point que si je la laissais dehors, sans faire exprès comme ça, eh ben, elle restait dehors en attendant que j'ouvre la porte, que je devine que, voilà. Elle était drôle de chien. Sauf une fois. Alors, je sais pas, il y a un cygne qui s'est posé dans le fond du jardin. Alors là, ça a été, j'ai jamais entendu aboyer aussi fort, mais là, la virage et tout. Mais, sinon, un chien, c'est une formidable compagnie, les terriers. Formidable. Ben, la chienne que j'avais, qui s'appelait Road, que ma mère a trouvée dans un champ de maïs.
Road, comme la route.
Oui, absolument, elle était trouvée au bord d'une route, un champ de maïs. Et ben, ma mère n'a pas pu prendre l'avion pour venir en France. Bon, après quelques années, elle est repartie aux États-Unis. Et elle a trouvé un cargo polonais. Évidemment, avec des marins polonais. Ben, ils acceptaient la chienne, donc ils prenaient des passagers comme ça. J'ai quand même reçu un courrier me disant « Si les marins sont pas trop bourrés, on arrive dans 2 jours. » Alors, ok. Et j'ai vu un gros chien à la maison.
William Scheller, la fin de votre autobiographie, c'est plutôt un message d'espoir et c'est à nouveau lié au chien. Vous estimez qu'il vous reste 20 ans à vivre environ. Mais... 20 ans, c'est au maximum l'équivalent de la vie d'un chien.
Mm-hmm.
Et vous dites, vous écrivez « Alors, je n'ai pas envie de perdre du temps en fourrant ma truffe dans ce qui ne m'apporte rien. »
Évidemment. Évidemment, c'est bref, là. C'est bref, encore. Bon, je commence à penser à ce que je vais laisser. Non, pas du tout au niveau artistique, génie, machin, bidule. Non. J'ai un superbe canard qui est fait par uniquement avec des couverts en argent. Et alors, les choses sont installées de telle sorte que la louche sert de crâne, les fonds de cuillère, enfin, les manches de cuillère font le bec. Enfin, tout est fait comme ça, c'est magnifique. Ma fille me dit, quelle horreur. Ben, je lui dis, tu l'auras pas. Enfin, des trucs comme ça. On rigole. Par contre, mon petit-fils veut absolument la médaille militaire que
de votre père biologique, soldat
américain.
Mon père
biologique, que je porte toujours. Il m'a dit, j'aurai ça. Et puis son gobelet en métal dans lequel il a gravé les villes qu'il a libérées, quoi.
Vous restez quand même avec nous, là, une vingtaine d'années, William Scheller.
On va essayer.
Oui,
encore des trucs à faire.
Oui, il y a des trucs à faire. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Ben, avec le chemin que ça représente.
Je rappelle que votre autobiographie William est parue aux éditions des Équateurs en mars dernier. Chers auditeurs, la programmation musicale Les Remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme a la grâce d'un fanion intermezzo. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.